Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut à tous, cinquième jour de compétition et une nouvelle médaille pour le camp français. Elle a été décrochée par Chloé Trespoche en snowboard cross, ce qui porte le total de l'équipe de France à 6. On reviendra évidemment sur sa performance avec notre consultante Ophélie David et nos journalistes Laurent Vergne et Christophe Godot. On parlera aussi de ski alpin avec Gauthier de Tessière et sera question de combiné. Et qui dit combiné dit Alexis Pinturo. Mais pour débuter, deux invités de retour de Pékin, Perrine Lafont et Benjamin Cavet, tous deux quatrièmes de la finale des Bosses. On les accueille avec Laurent. Allez, l'heure olympique, c'est parti. On débute cette heure olympique avec une séquence dont vous aviez pris l'habitude à Tokyo. Bah, la revoici à l'occasion de ces Jeux d'hiver, aujourd'hui dans Retour de Pékin. Donc, on accueille deux Français qui reviennent tout juste des Jeux, Perrine Lafont et Benjamin Cavet. Tous les deux ont terminé au pied du podium à la quatrième place de la finale des Bosses. Déjà, on est ravis de vous accueillir et on a envie de vous poser une question, la première toute bête. Mais comment allez-vous, tout simplement ?
Tu vas, Ben ?
Ouais, du coup, on est content d'être rentrés. Ça s'est enchaîné vraiment vite. On est parti le lendemain de la course femme et arrivé hier soir, réception au CNOSF et ravi d'être avec vous sur Eurosport ce matin.
Perrine, vous avez manqué le bronze pour moins de 4 dixièmes de points. Globalement, sur la finale, qu'est-ce qui vous reste ? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, vous pensez, après, avec un peu de recul ?
Moi, je pense que ce qui a manqué, c'est un petit peu d'engagement, sûrement, avec un plus gros run pour qui aurait pu faire la différence avec la Russe. Ouais.
Perrine, pour parler de votre discipline, on a beaucoup dit que vous l'aviez tiré vers le haut, que vous aviez... C'est vous qui l'aviez dit d'ailleurs, que vous aviez plus de marge, beaucoup moins de marge qu'avant par rapport à la concurrence. Comment vous situez le niveau global de la discipline par rapport à ce qu'il était, par exemple, il y a 4 ans à Pyeongchang ?
Là, notre sport, il a tellement évolué, et surtout chez les filles, notamment avec les sauts, en fait. En 4 ans, c'est passé à un niveau de difficulté énorme. Et c'est vrai que c'est... C'est pas complètement c'est pas une nouvelle discipline, mais voilà, c'est avant c'était beaucoup sur du ski, maintenant il y a les sauts qui sont tellement importants aussi, et c'est vrai que ça change pas mal quand même notre sport.
Et même question pour Benjamin, chez les garçons, ça évolue aussi en permanence, notamment au niveau des sauts, c'est par rapport à il y a 4 ans ou il y a 8 ans, parce que vous étiez là également à Sochi, comment ça a évolué ?
Ouais, au niveau des sauts, chez les nanas, ça a vraiment évolué. Là, elles étaient toutes en dispine à Pékin, alors que plus des 3-6 sont voyées à Pyeongchang. Donc, ouais, elles sont vraiment très, très bien skiées. Et le sport, il est magnifique cette année chez les dames. Nous, chez les mecs, en vrai, en saut, ça n'a pas trop bougé. Plus en vitesse là, de ski, là, à Pékin, ça a vraiment fait des runs d'assassins. Tous les mecs rideaient à fond, quoi. Donc... voilà, il faut suivre et je suis content de comment j'ai skié là. Bah, tu vois, c'est, la neige, elle est, il faisait moins 20, moins 30 là-bas. Donc, vous imaginez bien l'état de la neige. Donc, c'est vraiment un champ de mine glacé. Donc, il faut se lancer à fond dedans. Donc, voilà, mais je pense qu'on a fait une belle compète.
Justement, Benjamin, juste après la finale, il y avait un peu de colère dans le camp tricolore. Comment vous vivez aujourd'hui cette décision ? Est-ce que vous avez pris du recul ou est-ce que vous avez toujours ce petit goût amer ?
Justement, c'est plus je prends de recul, plus je fais peut-être de médias, plus je croise des gens, plus en fait je suis triste parce que en fait on s'éloigne de la course, on s'éloigne de toutes ces émotions de ski, de dingue que j'ai pu réaliser. Et ce qui restera, ça sera sur papier la quatrième place, quoi. Donc, Plus je m'éloigne et plus je prends de recul, plus il y a de déception.
Parce que sur le moment où vous avez dit justement, il me semble que c'était une des plus belles compétitions de votre carrière sur l'effort fourni. Ouais. Est-ce que ça ne vous ouvre pas finalement une forme de perspective quand même positive ?
Si, bien sûr, si, faut en profiter, mais c'est vrai que les JO, ces courses d'un jour, au prochain, j'aurai 32 ans, est-ce que je serai capable de faire une médaille à cet âge-là? Donc, il y a pas mal de questionnements aussi.
Perrine, chez les garçons, alors vous allez me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression que dans les trois runs de la finale, à chaque fois, quasiment tous, Benjamin, vous augmentiez votre score, vous améliorez votre score. Chez les filles, ça n'a pas été tout à fait le cas, et pas que pour vous, Perrine, mais c'est vrai que quand vous avez fait votre premier run, où vous êtes, je crois, juste en dessous des 80, vous êtes troisième. On s'est dit, bon, bah, ça sent plutôt bon pour la médaille parce que si elle est capable de grimper encore un peu son score, ça devrait le faire. Et finalement, je crois que les deux runs suivants, vous êtes à 77 et quelques, et vous êtes plusieurs comme ça à avoir un peu moins performé, en tout cas été moins bien noté sur les deuxièmes, voire troisièmes runs. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est habituel?
C'est vrai que c'est pas habituel. En principe, les scores ils montent plus tôt. Après, là, c'est une compétition olympique où tout le monde, je pense, était sous pression. Donc, forcément, ça se ressent sur le ski. Et c'est, enfin, nous, notre sport, c'est, vous l'avez vu, hein, c'est 27-28 secondes. Donc, tout peut basculer tellement vite que. Bah, c'est ce qui s'est un petit peu passé. Voilà, il y a des filles qui ont craqué, il y en a qui ont réussi à tenir sur la longueur, mais au final, voilà, après, ça reste que des scores et on retiendra seulement les résultats, quoi.
On a discuté de ça avec Ophélie David après votre finale et même avant sur le fait que vous aviez tiré la concurrence vers le haut. Est-ce que finalement, cette quatrième place, on ne satisfait jamais une quatrième place, mais est-ce que justement ça vous pousse encore plus là à dire, bon, il y a comme, non pas une remise en cause, on n'en est pas là, mais de se dire, bon, les filles sont là, il va falloir, entre guillemets, déjà se réinventer.
Bah c'est sûr que vu la vitesse où ça a évolué chez les filles en saut et vu comment ça continue d'évoluer, là il y a une fille qui a commencé à faire des 1080. Donc c'est ce que font les garçons, clairement. C'est un des sauts qui est les plus difficiles. Et c'est sûr que ben, là on se dit oui, ok, il y a des disciplines qui sont passées, mais ça va continuer d'évoluer. Et sûrement dans 4 ans, bah, il y aura peut-être pas mal de filles qui seront en 1080 aux Jeux Olympiques, quoi.
J'ai une question vraiment de Béotien, c'est pourquoi et comment ça a évolué comme ça, comme vous le dites justement, vous dites qu'il passe des sauts de fou. Pourquoi une accélération comme ça sur ces derniers temps?
Bah, tout simplement parce que ça fait partie de notre sport. C'est exactement pareil en slopestyle et en big air et même en halfpipe. En fait, on est une discipline qui peut permettre d'avoir des évolutions et c'est ça qui est beau en fait. C'est que ça s'arrête jamais et je pense que c'est ce qui permet aussi de ne pas avoir de lassitude dans nos sports, de le voir évoluer, de le voir grandir. Et c'est ça qui rend chouette en fait.
J'ai une petite question pour tous les deux, un peu annexe. Ces jeux étaient un peu particuliers, notamment en raison du protocole sanitaire très strict, de cette épée de Damoclès qui a pu planer notamment et surtout au-dessus de tous les athlètes par rapport à un éventuel test positif. Est-ce que vous avez pris du plaisir pendant ces jeux? Ce n'était pas vos premiers, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc vous êtes des vieux routiers de l'Olympisme maintenant. Comment vous les avez vécus?
Alors c'est vrai que ça a été un petit peu dur les mois précédents en fait les jeux parce que on a vraiment été dans une bulle sanitaire à plus voir les proches, l'entourage et notamment les quelques semaines avant les jeux où bah vraiment on était enfermés chez nous en fait et c'était juste sortir pour aller faire les courses et acheter le strict minimum. Mais après, sur place, quand on est rentré dans la bulle sanitaire, ça a été quand même beaucoup plus détendu et on a pu profiter quand même de l'événement.
Benjamin,
Benjamin. Ouais, du coup, on avait des coachs qui étaient confinés de leur famille, isolés de leur famille 2 semaines avant de partir. Mais c'est un délire, quoi. Enfin, jamais on aurait imaginé ça. Donc, en fait, et moi, je n'ai pas l'habitude de dire que le sport de haut niveau, c'est des sacrifices. Enfin, se coucher tôt, bien manger, s'étirer, toutes les choses lesquelles on doit faire. Mais en fait, là, cette année, enfin, les 2 dernières années avec le Covid, c'est vraiment des sacrifices. Enfin, c'est énorme ce qu'on nous demande. Enfin, on doit vraiment, on voit personne, quoi. Donc, voilà. Mais une fois arrivé sur place, c'était assez relax. On pouvait se balader dans le village, voir d'autres gens. Enfin, on avait tout le temps le masque, etc. Mais c'était pour moi mes JO favoris avec l'ambiance qu'il y avait sur place. Parce qu'en fait, on a fait tellement d'efforts pour y être qu'une fois sur place, on était là. Ah, c'est bon, enfin, on peut enfin en profiter, quoi.
C'est une forme de libération, on va dire, paradoxale.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en fait, finalement, nous, que ça soit aussi contraignant qu'il y ait autant de contraintes sanitaires là-bas sur place, ça nous rassurait même. Parce que là où c'était stressant, c'est d'être négatif au test quand il n'y a pas tellement une bulle autour de nous sur les Coupes du Monde avant, quoi.
Et donc, vous ne sentiez pas une forme d'oppression, on va dire, de l'organisation pour dire attention, il faut rester dans la bulle. Donc, c'était plutôt libre, comme vous le disiez.
Ouais, parce que même sur des JO hors Covid, il y a vraiment des. Pour sortir, pour aller dans le village olympique, il y a beaucoup de contrôles.
C'est déjà une bulle par nature, en fait.
Voilà, c'est ça. C'est ça.
Et le programme pour vous, là, la suite, maintenant, c'est quoi? À court terme, déjà, hein, je ne parle pas forcément de 2026, mais la suite de la saison.
Alors, la saison n'est pas finie, même si là, on a une longue pause quand même de un mois parce qu'on a beaucoup de Coupes du Monde qui ont été annulées à cause du Covid. Mais il nous reste encore trois étapes, dont une en Italie le 12 mars. Et après, on finira en France à Megève le 17-18 mars. Donc, il y a encore de quoi faire sur la fin de saison.
Et content de finir en France?
Ah bah oui,
le public.
On va pouvoir finir dans les bras du public français, finir avec les proches. Et ça va être d'autant plus important et réconfortant aussi après des années où bah voilà, on est isolé de tout le monde. Et on va pouvoir en faire partager un peu plus ce genre de moment.
Merci Perrine, merci Benjamin, merci d'être venu pour cette première de retour de Pékin. On passe tout de suite à la deuxième partie et Christophe Godot nous rejoint. C'était évidemment sur Eurosport ce matin, c'était avec Ophélie David. Chloé Trespeuch a décroché une belle médaille d'argent en snowboard cross. Bonjour Ophélie.
Bonjour messieurs.
Salut Ophélie.
Salut.
Ton impression déjà générale sur cette médaille d'argent et cette course de Chloé?
Alors, l'impression générale, je pense que c'est déjà une équipe féminine qui a montré de très très belles choses. Quelques regrets pour Manon. Mais globalement, il y avait vraiment des belles choses. Et je crois que Chloé, en chef de file de cette équipe, est arrivée avec cet état d'esprit, je dirais vraiment sereine, forte. On l'a vue solide, on l'a vue dérouler, en fait, tout au long de la course. Elle n'a pas tremblé. Et je pense que c'est vraiment le collectif qui était derrière qui lui a donné cette assise, en fait.
On a eu l'impression d'une finale, j'allais dire, hein, même si c'est pas vraiment, ça colle pas avec ce sport-là, mais assez linéaire. C'est-à-dire qu'elle est en deuxième position, elle est bien derrière Jacobellis. Et à un moment, à l'avant-dernier virage, elle revient. Et qu'est-ce qui fait la différence à ce moment-là? Est-ce que c'est la position de pointe de Jacobellis qui est un avantage, ou est-ce qu'il y a un petit quelque chose qui fait qu'on ne voit pas nous avec notre œil de béotien?
Bah, en tout cas, tous ces virages front, hein, c'est-à-dire quand elle est face à la neige. Chloé était extrêmement efficace. À chaque fois, elle taillait vraiment avec beaucoup une technique très balèze, et ça lui faisait gagner de la vitesse. Et c'est ce qu'elle a fait sur cette finale quand elle revient un petit peu sur Lindsay Jacobellis. Il ne faut pas oublier que Lindsay Jacobellis, 36 ans, c'est un palmarès de dingue. Et une expérience donc qui va avec. Je pense qu'elle l'a senti. On voit qu'elle ferme un peu la porte, elle change un petit peu sa trajectoire. Du coup, ça coupe Chloé dans son élan, et elle a peut-être eu aussi l'info, parce que Chloé l'a fait plusieurs fois dans la course. Donc elle savait qu'il y avait potentiellement une attaque là, j'imagine. Je serais extrêmement surprise que cette petite écart soit le fruit du hasard. Je pense que ça a été vraiment une défense de sa pole position de la part de Jacobellis, et elle coupe l'attaque de Chloé, tout simplement, en fait.
Messieurs, c'est une belle médaille d'argent.
Oui, c'est une belle médaille d'argent, et c'est vrai qu'on aurait presque pu espérer encore un petit peu mieux, parce qu'on était tout près d'avoir deux Françaises en finale, et là déjà ça assurait au moins une médaille et potentiellement deux sur le podium. Tu disais Jacobellis, hein, 36 ans. Chloé, c'est sa deuxième médaille. Elle en a vu une à 20 ans, là, elle a 28 ans. Ça veut dire que voilà, elle a eu le bronze, elle a eu l'argent, elle a tout, encore tout l'avenir devant elle pour avoir de l'or.
Oui, ouais, absolument. On se rend compte que finalement, ces disciplines cross à quatre, c'est souvent l'expérience hein, qui prédomine. Et vous allez me dire oui, mais Julia.
Oui, c'est ça, oui, ce que j'allais te le dire.
C'est non, pour
ce qui est marrant, ouais, c'est qu'on voit à la fois des gamines de 16 ans ouais. sur le podium et une ouais. femme de 36 ans, championne olympique 4 ans après. Donc, c'est,
ouais.
c'est, y en a pour tout le monde. Quoi.
Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que par contre, globalement, je pense que si tu fais la moyenne d'âge, elle, ouais. elle est quand même un peu élevée. Et après, c'est vrai que tu peux avoir des pépites comme on a la chance d'avoir avec Julia et qui nous a démontré que sur les courses d'un jour et notamment quand il y a les 5 anneaux, elle sait vraiment se transcender. Là, aujourd'hui, elle fait clairement sa meilleure course de l'hiver. Et la pression, en fait, ça la sublime, quoi. Et elle sort le meilleur d'elle-même le jour J. Ça, c'est de très, 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 très bon augure pour Cortina.
Ouais.
Pardon, vas-y.
Pour Chloé, je réfléchissais ce matin. Et il y a 8 ans, c'était plutôt une surprise, sa médaille. Elle était jeune. Et là, en fait, on a quand même l'impression que c'est... Pas qu'elle est plus méritée, parce qu'elle méritait tout à fait sa médaille il y a 8 ans, mais là, c'est la médaille de la régularité. Elle est dans le top 5 de la Coupe du Monde depuis X années maintenant. Elle a fait des podiums cette saison, donc c'est aussi bien de le faire quand on a la pression, quand on est attendu. Et là, pour le coup, elle était attendue. Alors moi, j'avais une question, Ophélie. Est-ce qu'elle peut avoir des regrets par rapport au fait que notamment Charlotte Banks n'était pas en finale?
Non.
Non.
Non, non, pas du tout. Ben non, c'est le jeu, c'est la course, c'est comme ça. Tout le monde doit sortir son épingle du jeu. Sa médaille n'est pas moins belle. Non, non, là, sur la course, franchement, c'était beau comme tout. Il n'y a pas eu de mauvais gestes, il n'y a pas eu de mauvaises intentions. Tout s'est fait à la régulière. Donc, non, non, rien à regretter. Donc, tu pourrais poser la même question. Du coup, il n'y avait pas Molioli. Est-ce que ça compte moins? Non, pas du tout. Justement, elles se sont fait éliminer, et encore une fois, à la régulière toutes. Hein. Donc, je crois que pour la... Je voulais juste rajouter qu'il y a 4 ans, Chloé, elle vit quand même un drame à Pyeongchang. C'est très dur. Et moi, je me souviens l'avoir croisée en bas. Elle était... Franchement, elle était en morceaux. C'était hyper, hyper dur de la voir comme ça. Et je suis sûre qu'en fait, elle a eu l'intelligence et la force de transformer cette blessure en une arme redoutable. Et cette médaille, elle a aussi cette histoire-là en elle et elle est super belle.
Elle avait d'ailleurs parlé de plus gros échecs de sa carrière. Et c'est marrant parce qu'on parle de rebond. Je voudrais aussi qu'on parle de la championne olympique. Tu en as un peu parlé, Lindsay Jacobellis. C'est ses 5e JO, c'est, comme tu as dit, c'est une légende, mais elle a attendu ses 5e JO pour gagner, pour dire un peu la valeur d'une médaille d'or. Et elle a une histoire formidable, c'est qu'à Turin, enfin formidable, c'était moins formidable à l'époque,
ouais.
chute en finale, elle est médaillée d'argent, et aujourd'hui elle a dit qu'elle n'aurait pas gagné à Pékin s'il n'y avait pas eu Turin. Donc, je trouve que c'est ouais. assez beau comme histoire.
Ouais, c'est sûr. Ben voilà, c'est à l'image de ce que je viens de te raconter pour Chloé. Hein. Je pense que c'est des blessures qui te forgent, c'est des blessures qui t'oblige à aller puiser loin en toi et qui te finalement sont c'est des coups mais qui sont des révélateurs pour te rendre compte que finalement on est pleine de ressources, pleine de force à l'intérieur et que voilà quand ça se déroule presque trop facilement, il y a moins de leçons à en tirer et il y a moins de profondeur en fait dans une carrière. Et je pense que comme il faut de l'ombre pour apprécier la lumière, eh ben, il faut des échecs pour apprécier les victoires. Et c'est vrai que ben, les mots de l'INSEE vont complètement dans ce sens.
Et il faut rappeler que les 3 éditions des Jeux entre Turin et Pékin, elles ne gagnent aucune médaille.
Ouais.
C'est la valeur de l'attente et la valeur évidemment de ce titre olympique aujourd'hui.
Oui, ouais, elle est exemplaire. Et puis, non, c'est une superbe athlète. Et je pense qu'après Turin, il y avait certes l'or qui lui file entre les doigts, mais aussi l'énorme polémique qu'elle a dû essuyer. Parce que je vous rappelle qu'en fait, elle grabe en l'air. Et tout le monde pense qu'elle grabe un peu pour faire le show, par excès de confiance. Alors qu'en fait, c'est un geste qu'elle répétait assez souvent en course pour se stabiliser. C'était une manière à elle de trouver son équilibre en l'air. Ça a été la lecture a été tout autre en fait quand elle chute et il y a eu beaucoup de méchanceté et de pique et je pense que ça aussi il a fallu le digérer quoi.
C'était une course de revanchard en quelque sorte aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai. Il y avait un peu de ça.
Laurent, tu voulais parler des hommes
de snowboard cross. Des hommes et puis de l'épreuve mixte qui aura lieu dans quelques jours. Comment tu vois ces deux épreuves-là et quels sont quel est le potentiel de l'équipe de France? Qu'on parlait surtout des filles. Qu'est-ce qu'on peut attendre des garçons? Qu'est-ce qu'eux, ils attendent? Et puis cette épreuve mixte derrière.
Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des filles parce que c'est elles qui ont fait les podiums. Hein. Ensuite, je pense que chez les garçons, alors on a vu, hein, il y a eu des retournements de situation là chez des filles, il y a eu des surprises, des bonnes, des mauvaises. Et là, je pense que chez les hommes, c'est ça, mais x10, ouais. Parce qu'il y a une densité qui est un peu plus importante. Et nos Français, là-dedans, ils ont un vrai coup à jouer. Je veux pas mettre la poisse à Merlin en parlant de lui, mais franchement, c'est l'un des riders les plus rapides du circuit. Si demain, il arrive à se libérer et à faire sa meilleure course à l'image de Julia et de Chloé, qui ont vraiment réussi à se transcender aujourd'hui, il peut vraiment nous surprendre. Et puis ouais, franchement, c'est course d'un jour. Et demain, chez les gars, en border, je m'attends à tout. Voilà, je m'attends absolument à tout. Et on peut rêver, parce que nos snowboarders ont le potentiel. Après, pour la course, le team event, on a deux jolies paires, hein, et on l'a vu aux mondiaux, c'est pas la paire numéro 1 qui est montée sur la boîte. Donc, j'ai envie de te dire, pourquoi pas rêver d'un doublé si tout le monde est à l'heure et au rendez-vous, on peut se faire plaisir. Hein.
Bah, rêvons, ça coûte pas cher.
C'est ça.
On te reverra donc beaucoup dans l'Olympique alors.
Alors quand vous voulez, je veux dire, ouais,
je pense que tu es l'invitée la plus présente depuis le début de
la canadienne.
La médaille d'or, là, il n'y a pas de problème.
C'est cool.
Merci à toi, Ophélie.
Merci à vous, bonne soirée.
Merci.
On passe à la troisième et dernière partie de l'émission et on accueille Gauthier de Tessière. Salut Gauthier.
Salut les gars.
Alors évidemment, on va parler ski alpin, on va parler combiné, et qui dit combiné dit Alexis Pinturo. Il a tout gagné en combiné, sauf l'or olympique. Question simple, est-ce que c'est la bonne pour demain?
Question simple.
Oui. En tout cas, je pense que s'il y a vraiment une chance de médaille d'or cette année, elle est clairement sur cette discipline-là. C'est la discipline où il est le plus grand favori. C'est aussi cette médaille qui lui manque. Je pense qu'aujourd'hui, tout est rassemblé. Il a fait de bons entraînements descente. On a vu qu'il était dans le coup sur le Super G. En slalom, il y a des belles choses. Tout est réuni, je pense, pour que ça soit la médaille d'or. En tout cas, on espère. Il n'y a pas beaucoup de favoris, mais Alexis, c'est l'archi-favori. Ouais.
Il partira, je crois, avec le Dossard 13. C'est une épreuve à 27 skieurs. C'est un peu particulier. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas?
Le combiné, c'est une discipline vraiment historique hein, du ski alpin. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a moins d'athlètes qui souhaitent la faire. Il n'y a pas de très, très grosses audiences autour de cette discipline. Mais c'est vraiment tout l'art du ski entre deux disciplines complètement opposées. On a vraiment la descente, qui est une discipline voilà, la plus rapide. On descend vraiment sur une piste quasiment tout droit. Et puis le slalom, qui est la discipline la plus technique, où là, vraiment, on vient faire des tout petits virages. Donc, il faut réussir à combiner ces deux disciplines. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de skieurs qui ont envie de la pratiquer parce que ce sont deux disciplines tellement opposées que voilà, il y a pas beaucoup de coureurs, il n'y a pas beaucoup de concurrence.
Et puis, il n'y en a plus maintenant quasiment en Coupe du Monde. Je crois que le dernier combiné, c'était celui des mondiaux.
Ça fait polémique. C'est vrai que c'est une discipline qui fait polémique. La FIS essaie de trouver des formats qui fonctionnent, des formats innovants. Mais voilà, ça, c'est une discipline historique. C'est encore au programme, évidemment, des JO. C'est un peu en suspens pour les championnats du monde et en tout cas pour le circuit de la Coupe du Monde. Cette année, on l'a complètement mis de côté. On a gardé quelques parallèles, mais le combiné ouais, a été un petit peu mis de côté. Donc, c'est très spécial. Et ce qui fait encore plus que c'est un contexte très spécial cette année et qu'il n'y a que 27 coureurs au départ.
Christophe, tu l'as trouvé comment, Alexis, lors du Super G? Il a terminé 11e.
Bah plutôt bien, 11e pour lui. Alors, c'est pas ses meilleurs résultats en Super G. Il a déjà gagné, même si c'était il y a longtemps. C'est pas ses meilleurs résultats en Super G, mais 11e, c'était bien. Et surtout, d'avoir fait Super G pour lui, en plus des entraînements de la descente du combiné, c'est un plus. Il a déjà goûté à la neige, j'allais dire, goûté à la piste. Et on sait que pour lui, vu la concurrence, comme disait Gauthier, la manche de descente va être ultra importante. Puisque dans le top 10 du slalom de la Coupe du Monde, il y a personne qui sera là sur ce combiné.
On a parlé du matériel, du mental, de plein de choses. Qu'est-ce qui a bloqué en ce début de saison, selon toi, Gauthier, pour Alexis?
Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je pense qu'il y a eu évidemment ce globe l'an dernier qui était le Graal pour lui. Parce qu'on parle d'une médaille olympique, les médailles mondiales. Pour Alexis, pour tout skieur, gagner le Grand Globe, c'est vraiment avoir le respect du circuit. Et pour lui, c'était le Graal. Donc peut-être qu'il est arrivé à toucher vraiment son rêve. Et derrière, il s'est un petit peu relâché. Il a peut-être moins travaillé sur son matériel. J'ai la sensation que cette année, il y a cette digestion, si on peut dire le mot, en tout cas du Gros Globe. Et puis, il n'y a peut-être pas eu le travail fourni, il n'y a peut-être pas eu la même motivation, que ce soit de lui, de son staff. Donc, on sent qu'ils n'ont pas les solutions. De toute façon, la saison est lancée, les choses vont trop vite pour un coureur polyvalent comme Alexis. Et il n'y a pas eu la réussite attendue. Dès le mois de décembre, on sent qu'il y a des doutes. On sent que c'est un bon Alexis, mais les autres ont progressé et lui a plutôt stagné. Donc il y a des doutes. On le sent aussi dans ses interviews que tout n'est pas clair, qu'il n'a pas forcément les solutions. Il n'a pas les solutions parce qu'il a toujours gagné, il a toujours progressé. Et cette année, on sent qu'il est un petit peu en dessous du niveau des meilleurs mondiaux. Donc c'est peut-être une petite faiblesse et c'est rassurant, il est aussi humain. Simplement, il n'a pas eu le temps de travailler sur son matériel, sur son mental, sur tout ce travail autour de son staff aussi. Donc, les résultats sont moins bons, mais ça ne veut pas dire qu'il va quand même pas rafler des médailles ici. Ça reste un très bon athlète. C'est des conditions différentes. À voir si il arrive à retrouver de la confiance et à tenir ses objectifs qui, cette année, étaient finalement assez rapidement de lâcher le globe et d'aller chercher une médaille d'or olympique.
C'est pas trop difficile. Est-ce qu'on peut espérer? Il a fait Super G, c'était pas trop mal. Combiné, est-ce que déjà l'ordre des disciplines peuvent peut-être le remettre d'aplomb? Est-ce qu'il est possible aussi de switcher automatiquement d'un début de saison difficile à une fin de saison réussie, notamment en JO?
Oui, évidemment, hein, c'est quand même de grands champions. Il n'était pas non plus largué. Je pense qu'il a un petit peu relâché finalement sur le mois de janvier en se disant, je vais tâcher d'arriver en forme en février, peut-être aligner quelques journées. J'ai pu discuter avec son coach de test aussi pour régler ce matériel. On sait qu'en plus, il y a un vrai facteur, et tu en as parlé Christophe, c'est que ce sont des conditions différentes qu'il fallait s'adapter. C'est bien qu'il ait fait le super G et l'entraînement descente. Et il faut surtout travailler sur son matériel, trouver les bons réglages. C'est une neige complètement différente, donc j'ai la sensation que on met peut-être pas les compteurs à zéro, mais en tout cas c'est un format totalement différent. On est en Chine, on est sur des neiges asiatiques, encore plus différentes de tout ce qu'on a connu. C'est une neige unique, c'est un tracé unique, c'est un froid unique. Il y aura aussi le facteur vent. Donc il y a plein de choses qui fait que peut-être un athlète comme Alexis, bah, il se dit même si j'étais un peu moins bon sur le début de saison, là quand même j'ai une énorme opportunité si je suis assez juste les jours avant. Voilà, je l'ai vraiment au bout des spatules, cette médaille, et je peux aller la chercher.
Et si je peux rajouter un mot, moi je pense qu'il joue vraiment très très gros quand même dans ce combiné parce que tu l'as dit Gauthier, il est vraiment le grand favori par rapport à d'autres combinés qu'il a pu faire dans le passé, notamment dans des grands championnats. Il n'y a pas tout à fait la même densité que ce qu'on a connu en certaines occasions et c'est vraiment sa plus grosse chance de médaille, en tout cas si on regarde. D'abord, son goût pour cette épreuve-là, on le sait, il est très polyvalent et la concurrence qu'il aura en géant, mais encore plus en slalom pour lui, c'est incomparable. Donc, et derrière, il y aura le géant et le slalom. tout se joue pas dans ce combiné, mais je me dis quand même que si ça devait mal se passer pour Alexis jeudi, j'ai peur que ce soit vraiment dur derrière pour lui. Donc, il y a tout pour qu'il fasse, on va dire, à minima une médaille maintenant. Il y a aussi une manche de slalom. On sait qu'il a eu quelques soucis, notamment lors des derniers slaloms pour rester en piste. Donc, c'est pas non plus la sécurité sociale. Mais effectivement, s'il arrive à être vraiment très bien placé après la descente, bah, il pourra vraiment gérer a priori. Après, gérer un slalom, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux non plus. Moi, je pense quand même qu'il reste son principal rival. Le principal rival d'Alexis Pinturo dans ce combiné, c'est Alexis Pinturo. Donc voilà, on lui souhaite vraiment de décrocher à minima une médaille et si possible ce titre olympique qui est vraiment ce qui lui manque. Et je pense que s'il est champion olympique, tout le reste sera effacé. Tout ce qu'il a vécu cette saison sera effacé. Parce que c'est vraiment, ce serait sa consécration ultime, même si en tant que skieur, je suis d'accord, le fait d'avoir gagné le Gros Globe, c'est plus fort que s'il était champion olympique du combiné dans le contexte de ces Jeux de Pékin et de ce combiné-là.
Tu as raison, c'est une excellente réflexion. Je pense que c'est vraiment un double enjeu. Le premier enjeu, c'est de réussir ce combiné pour bien conditionner effectivement le slalom et le géant où il a une chance de médaille. Mais oui, là, tu as raison, besoin de beaucoup de confiance pour aller la chercher parce qu'il y a d'autres skieurs qui skient très vite. Et le deuxième enjeu, si vraiment on veut être un petit peu dur avec lui, c'est que finalement, la médaille d'or olympique, la seule ligne à son palmarès qui manque, bah, c'est peut-être là sa plus grosse opportunité d'être champion olympique. On sait qu'en slalom, en géant, ça sera difficile. On sait que dans 4 ans, ça sera aussi difficile. Donc, tu nous mets la pression, tu lui mets fortement la pression et tu as raison. Je pense que la plus grosse opportunité pour lui, elle est là, elle est devant lui. Donc, beaucoup, beaucoup d'enjeux sur ce combiné.
Et aborder le géant avec un titre olympique derrière lui, je pense qu'il pourrait vraiment se faire plaisir, vraiment se lâcher, tout lâcher. Il aurait de toute façon plus rien à perdre. Même s'il sort, ce sera entre guillemets pas grave. En revanche, si ça coince dans le combiné, là, il va vraiment falloir qu'il trouve les moyens de se lâcher quand même. Et quand on n'est pas trop en confiance, comme c'est son cas, c'est forcément beaucoup plus dur.
Ouais. On parlait du slalom tout à l'heure, donc c'est 3 sorties en janvier hein, sur 4 slaloms avec Alexis Pinturo, dont une en première manche qui est quand même assez dérangeant. L'avantage qu'il aura, là, on parlait de la start list réduite, ils sont que 27, mais on a compté, ils sont à peu près 15 de niveau de Coupe du Monde, ce qui fait qu'en sur la manche de slalom, eh ben, il aura une piste un peu moins détériorée que ça peut être que d'habitude où il part un peu loin en slalom après la descente. Là, il va partir dans des positions plutôt bonnes, on va dire.
Je rebondis du coup sur le slalom. Il y a deux facteurs qui sont plutôt positifs pour lui. Le premier, c'est qu'on a découvert la piste avec les filles cette nuit. C'est une piste relativement facile. On n'est pas sur des profils de Coupe du Monde comme Adèle Bodden ou la face de Bellevarde à Val d'Isère, tu vois, là où il y a un vrai risque. Et effectivement, il y a beaucoup de sorties de piste. On est sur une piste plutôt facile, en tout cas tout le haut, hein, sur un dernier mur un peu plus pentu, mais avec une neige qui accroche beaucoup. Et le deuxième avantage pour Alexis, c'est que ça sera son coach, Fabien Munier, qui a déjà d'ailleurs tracé la manche. Qui a fait un tracé voilà, plutôt adapté à Alexis, j'imagine plutôt compliqué pour les descendeurs, mais parfaitement adapté pour le ski d'Alexis et des slalomeurs. Donc, ça réduira un petit peu aussi la concurrence. Et c'est assez rassurant de se dire, même si tu as raison, il y a eu des sorties de piste, il y a eu 2 fois où il a enfourché. Oui, il n'y a pas eu de réussite, mais on est sur un profil quand même plus facile.
Il y a vraiment tout, quoi.
Bon, mais messieurs, vous avez été parfaits. La bande-annonce, c'est parfaite. Hein. Franchement, là, si vous ne regardez pas sur Eurosport, c'est ni plus rien à comprendre. Gauthier, on te retrouve avec FX Raleigh à 3h30 pour la première manche. C'est bien ça?
C'est ça.
Donc, on va te laisser aller te coucher.
Exactement.
Voilà. Merci beaucoup. On passe à la dernière séquence de l'émission, le chiffre du jour. Christophe, il est pour toi aujourd'hui.
Il est pour moi. Alors, c'est 100. Alors, il va vous paraître un peu banal, mais vous allez voir que c'est pas tout à fait le cas. 100, c'est la note maximale qu'on peut obtenir en halfpipe. Demain et après-demain, c'est les finales du halfpipe. Demain pour les femmes et après-demain pour les hommes. Et il y a que 2 athlètes qui ont réussi 100 en halfpipe, c'est Shaun White, évidemment, chez les hommes, le GOAT, et Chloé Kim, l'américaine aussi, qui pourrait être la future GOAT.
Écoute, la bande-annonce a été plus courte, mais elle est très bonne aussi. C'est la fin de cette heure olympique. Merci de votre fidélité. On vous retrouve évidemment demain avec plein de médailles, on l'espère, et de l'or pour Alexis Pinturault. Salut!
Salut tout le monde.
Salut.
Salut.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.